Et du tennis, on va passer au football et au foot féminin dont on parle ce soir à une semaine tout pile du début du mondial de foot. Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
Du service des sports d'Europe 1, on en parle avec vous et on va parler de l'équipe de France qui joue donc ce soir à 21h son dernier match de préparation contre la Chine. Le premier grand match, ce sera le match d'ouverture France-Corée du Sud au Parc des Princes vendredi prochain. Comment elles vont les Bleues ?
Ah, la pression commence à monter, on les suit depuis un petit bout de temps et c'est vrai qu'autant il y a quelques semaines elles étaient assez relâchées, hein. On pouvait les voir par exemple en tête à tête pour les interviews, là depuis quelques jours ça y est, on s'est mis en mode compétition, c'est-à-dire que les points presse sont vraiment beaucoup plus organisés, c'est moins intime et puis on sent dans les discours que ça y est, là toute l'équipe est au complet depuis quelques jours maintenant et la concentration elle monte petit à petit, même si l'enjeu pour les Françaises aussi, c'est de ne pas trop se faire prendre par l'enjeu. Il y a ce match-là contre la Chine qui permet surtout aux joueuses d'expulser un petit peu le surcroît de pression. Mais elles sont dans leur compétition. Elles savent que voilà, le 7 juin, Parc des Princes, il y a un rendez-vous à ne pas manquer qui est capital pour la suite de la compétition.
Comment elles se sont préparées ? Elles ont vraiment le même genre de programme de préparation qu'on a connu pour les Bleus masculins l'année dernière ?
Oui, ouais, rigoureusement, je dirais même que c'est pire pour les filles. C'est plus dur encore. Oui, c'est une préparation de plusieurs semaines. Alors au début, il n'y avait pas toutes les joueuses. Hein. Par exemple, les Lyonnaises qui jouaient la finale de Coupe d'Europe en club, ont rejoint le groupe un petit peu plus tard. Mais entraînement avec le maximum de joueuses très tôt, il y a plusieurs semaines. Elles sont allées du côté de Perros-Guirec pour s'éloigner un petit peu aussi de Clairefontaine, voir un autre environnement. Et puis des entraînements qui parfois démarraient à 7h du matin, à jeun, avec des séances physiques assez intensives, 3 entraînements par jour. Donc pour essayer vraiment de mettre tout le monde au niveau physique, un niveau d'exigence assez rarement requis à ce niveau-là en foot féminin. C'est une vraie grosse préparation.
Qu'est-ce qui les attend jusqu'à vendredi prochain ? Donc ce match ce soir et ensuite ?
Alors ensuite, elles vont retourner du côté de Clairefontaine. Elles ont laissé les vraies belles chambres aux bleus garçons du côté du château de Clairefontaine.
Hier, effectivement, elles ont dû déménager.
Elles ont dû déménager, mais elles sont juste à côté. En revanche, elles vont vraiment déménager pour le coup mercredi soir, puisque ça, c'est la FIFA qui oblige les sélections. On ne peut pas avoir un camp de base à soi pendant le mondial par souci d'équité sportive. Donc les bleus, elles vont déménager à Croissy. Donc c'est vraiment à 30 minutes du Parc des Princes. Ça, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Jeudi, veille de l'ouverture, elles vont voir le Parc des Princes, elles vont aller s'échauffer au stade, le dernier point presse, avant le match, vendredi 21h.
Ouais. Alors, on les connaît peu, hein, les filles du foot féminin. Il y a des personnalités qui émergent dans cette équipe, qui sont finalement celles qu'on va regarder le plus.
Alors, il y en a une que vous allez forcément voir un peu plus que les autres parce que c'est la plus grande ou l'une des plus grandes, c'est Wendy Renard qui fait 1m87, c'est la défenseuse centrale, elle a 28 ans, c'est la capitaine de l'OL, donc elle a l'habitude de gagner, hein, multiple championne d'Europe, gros caractère, c'est vraiment une joueuse qui fait partie des cadres de cette équipe de France, elle est martiniquaise, elle est partie de chez elle à 16 ans, elle savait absolument pas dans quoi elle s'engageait, mais elle voulait être footballeuse professionnelle, elle l'est devenue. Vous avez aussi d'autres joueuses qui sont lyonnaises aussi, Eugénie Le Sommer, attaquante, buteuse de talent sur le côté gauche de l'attaque. Vous avez Gaëtan Tinet qui est la numéro 10, la meneuse de jeu. Et puis des joueuses un petit peu plus jeunes qu'on va vraiment découvrir, Viviane Asseyi, Kadidiatou Diani, qui sont des attaquantes, des vraies flèches qui vont très vite. Amel Majri, latérale gauche, extraordinaire joueuse également, très technique. Donc toutes ces filles-là, vous allez les découvrir et elles vont, je pense, vous impressionner.
C'est quoi leur vie ? Elles sont professionnelles ou est-ce qu'elles ont une vie à côté ?
Alors aujourd'hui, la plupart des joueuses, elles sont professionnelles à 100%, mais il y a quelques exceptions encore, notamment parmi les joueuses qui ont la trentaine, un petit peu plus que la trentaine. Je vais prendre deux exemples, par exemple, Élise Busaglia, elle joue à Dijon, et elle est instite en maternelle. Elle s'est mise en disponibilité pour faire du football, mais elle sait qu'à la fin de la Coupe du Monde, elle raccroche les crampons et elle va redonner classe à des maternelles. Gaëtan Tinet aussi. Alors elle aurait pu signer à Lyon, à Paris, dans des très grands clubs. Elle a toujours dit non, je veux rester semi-professionnelle pour avoir, oui, du foot et je joue en première division, mais aussi un métier à côté. Elle est cadre à la Fédération Française de Foot. Mais ça, ce sont des profils rares. Aujourd'hui, de plus en plus, les footballeuses et les jeunes femmes qui se lancent dans le foot, elles ne font que ça.
Alors, quel va être leur parcours dans la compétition? On connaît les premiers matchs. Donc, il y aura la Corée du Sud, ensuite la Norvège, le Nigeria.
C'est ça.
Quel est l'adversaire qu'on peut craindre le plus? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces matchs?
La Norvège, qui est sans doute l'équipe la plus forte avec l'équipe de France dans ce groupe. Évidemment, méfiance pour la Corée du Sud, qui semble moins forte, mais c'est un match d'ouverture. C'est au Parc des Princes. Au Parc des Princes, on va pulvériser dès le jour de l'ouverture le record du nombre de spectateurs pour un match de foot féminin, qui est de l'ordre de 25 000 pour les Bleus en France. Donc c'est pas énorme, là on va quasiment atteindre le double. Le 12 juin ce sera la Norvège, donc là c'est compliqué, c'est une grande nation. Le Nigeria a priori c'est plus dans la facilité, même s'il faut se méfier. Et puis alors après, si tout se passe bien, 8e de finale du côté du Havre, et si vraiment les Bleus sont au rendez-vous et terminent première de leur groupe, elles pourraient jouer les États-Unis en quart de finale, et ça ce sera le grand rendez-vous, parce que les Américaines sont les archi favorites de la compétition.
Les Américaines, et il y en a d'autres, les grands favoris de la compétition là. Il y a combien d'équipes?
Alors on a des groupes A, B, C, D, E, F, 4 équipes par groupe, 6 groupes, donc 24 équipes, avec un tableau après 8e de finale, quart de finale comme classique. Chez les garçons, les Américaines grandes favorites, on a les Brésiliennes très fortes aussi, les Allemandes, et puis des nations dont il faut se méfier, le Japon qui sont vice-championnes du monde en titre, mais la France fait vraiment partie des favorites. Les Bleus généralement ont tendance à rater leurs grandes compétitions ces dernières années, elles ont fait des quarts de finale, parfois un petit peu mieux, mais là il semblerait quand même qu'elles aient une équipe à la hauteur, même si vraiment les Américaines semblent quand même les grandes favorites cette année encore. C'est la nation reine du foot aujourd'hui.
Alors elles ont l'avantage ou l'inconvénient, je ne sais pas, mais c'est plutôt en général un avantage de jouer à domicile. Une Coupe du Monde en France, ça nous rappelle forcément des souvenirs de 98. On peut y croire?
Oui, on peut y croire, presque on doit y croire. En tout cas, les Françaises doivent y croire et nous, on peut y croire. Mais ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est quand on parle avec toutes ces joueuses de l'équipe de France, elles, quand elles ont commencé le foot, pour la plupart, pas pour les toutes jeunes, mais pour celles qui ont 28, 29, 30 ans, si elles se sont mises au foot, c'est parce qu'il y avait France 98.
Donc, elles sont de cette génération-là.
Oui, elles sont de cette génération et c'est vraiment dans leur tête et comme quoi elles peuvent y aller, elles peuvent aller au bout. Elles ont vu les garçons le faire en 98 et elles partent même, je dirais, plus favorites, elles, cette année, que les Bleus ne l'étaient en 98.
En tout cas, ça va donner une magnifique fenêtre d'exposition au foot féminin qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder. Vous disiez déjà, les billets se sont plutôt bien vendus. Il y a des stades qui sont
plus de 800 000, ouais.
qui sont pleins. Où est-ce qu'on regarde les matchs? Ils seront diffusés?
Ils seront diffusés à la télévision en clair sur TF1, Canal+, qui en a également acheté. Et puis, match à suivre chez nous aussi, sur Europe 1. Le match d'ouverture en intégralité. On sera sur tous les autres matchs des Bleus également. Et puis surtout, tout au long de la compétition, dans la matinale, beaucoup de portraits. On va commencer d'ailleurs dès lundi. On va vous présenter quelques-unes des joueuses phares de cette équipe. Et puis, on a une consultante, Sandrine Roux, qui est ancienne gardienne de l'équipe de France. Et toutes les joueuses dont on va parler, elle les a entraînées. Donc, c'est quand même sans doute l'une des meilleures personnes pour nous parler de cette équipe de France qu'on va découvrir et qu'on va aimer quasiment au même moment.
Voilà, c'est dans une semaine, tout pile, vendredi prochain, 21h, pour le match d'ouverture contre la Corée du Sud. Merci beaucoup. Simon Rubin, c'est vrai qu'on avait très envie de découvrir un peu avec une semaine d'avance tous ces profils qu'on va suivre au jour le jour à partir de la semaine prochaine. Très bonne soirée, bon week-end à vous, merci.
Au revoir. Europe 1.